Le journal de Nancy Chapuis.
Bonsoir. Omar Fraile lève les bras au ciel à Delémont. Le coureur espagnol de la formation Astana vient d'emporter la première étape entre Fribourg et la capitale jurassienne. Il s'est imposé au sprint. Page spéciale dans ce journal. L'année 2017 se solde sur une perte pour le CIP. Le centre interrégional de perfectionnement à Tramelan tirait ce matin un bilan plutôt morose. Un manque d'élèves et des prévisions trop optimistes expliquent ce mauvais résultat. Les violences sexuelles seront plus sévèrement punies. Le Conseil fédéral a décidé de durcir les peines concernant les viols et les infractions contre l'intégrité sexuelle. La justice conservera une marge d'appréciation. Un front va toucher la région cette nuit, avec lui quelques gouttes de pluie. Demain, le temps sera donc nuageux en matinée, puis le soleil reprendra ses droits. Le mercure ne dépassera pas les 15 degrés. Victoire espagnole sur la première étape du Tour de Romandie cycliste. Omar Fraile s'est montré le plus fort en fin d'après-midi entre Fribourg et Delémont. Il s'est offert le bouquet du vainqueur après un sprint d'une trentaine de coureurs. Le membre de l'équipe Astana a devancé l'Italien Tony Colbrelli et le Portugais Rui Costa. Mathieu Schaffner, on vous retrouve en direct de la ligne d'arrivée.
Alors on s'est régalé cet après-midi, Nancy, un vrai régal sur les routes du Jura bernois puis du Jura. Cette première étape du Tour de Romandie entre Fribourg et Delémont, 166,6 km à parcourir donc cet après-midi. Michel Léoni, vous nous livrez le résumé de cette première étape.
Oui, l'étape est partie sur les chapeaux de roue. Cinq hommes ont pu s'échapper très rapidement, quelques kilomètres seulement après s'être élancé de Fribourg. Le Néerlandais Marco Minard, le Belge Rémi Mertz, le Canadien Antoine Duchesne, l'Australien William Clark et le Français Alexis Goujard ont compté jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton à une septantaine de kilomètres de l'arrivée. Dans la deuxième montée en direction du sommet, Alexis Goujard et Marco Minard ont pris la poudre d'escampette. Ce n'est que dans les derniers kilomètres que les deux baroudeurs ont été rattrapés par un peloton lancé à vive allure. Le Français Rudy Mollard s'est extirpé et a compté quelques mètres d'avance au moment d'entrer dans Delémont, mais il s'est ensuite fait avaler par le peloton. La victoire s'est alors jouée au sprint et c'est l'Espagnol Omar Fraile qui a tiré son épingle du jeu à la rue du 23 juin devant l'Italien Sonny Colbrelli et l'ancien champion du monde portugais Rui Costa. Michael Matthews a lui perdu son maillot jaune au détriment du Slovène Primoz Roglic après avoir été lâché dans la dernière difficulté du jour.
Beaucoup de suspense donc sur les routes de la région cet après-midi. Christophe Moreau, en tant qu'ancien coureur, comment vous avez vécu cette étape? On s'attendait peut-être à voir un Rui Costa, un Michael Albasini gagner ici à Delémont. Finalement, c'est presque un inconnu, on va pas le dire comme ça, mais pour le grand public, c'est pas le nom le plus clinquant qu'on a.
Oui, c'est vrai qu'en pointe de vitesse, on s'attendait plutôt effectivement comme un deuxième, comme Sonny Colbrelli. Omar Fraile, faut quand même le dire, a été primé deux fois sur les routes du Tour d'Espagne en remportant le meilleur grimpeur et le classement général. Donc c'est clair que c'est plutôt quelqu'un qui est typé pour gravir les côtes et non pas gagner des sprints. Néanmoins, il a été rapide sur ce sprint final en faux plat montant, avec un vent de face, en déjouant les qualités de Sonny Colbrelli, le sprinteur de l'équipe Bahrain-Mérida. C'est dire qu'il est en forme, que l'équipe Astana veut aussi frapper fort. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est la prise de pouvoir de Primoz Roglic, celui qu'on annonçait comme favori pour ce Tour de Romandie, qui vient de remporter le Tour du Pays Basque et qui, dès la première étape, frappe déjà fort avec cette tunique jaune.
Effectivement, c'est peut-être ça qu'on va retenir. Le gros travail de la formation du Slovène Primoz Roglic aujourd'hui, ça marque les esprits et clairement, on se positionne déjà pour la victoire finale.
Ouais, finalement, il a su jouer très très fin, il a su laisser s'épuiser gentiment l'équipe Sunweb du leader Michael Matthews, qui avait aussi les capacités évidemment de gagner au sprint aujourd'hui. Néanmoins, l'équipe Jumbo Lotto a pris ses responsabilités, a mis Kreuzweig à l'avant et a ainsi esselé les différents sprinteurs. La preuve, c'était la bonne chose. Un beau sprint, il est encore classé dans les 10 premiers et il se positionne en ayant fait deuxième du prologue, en tout cas premier au classement général. C'est un beau début de Romandie, un homme à suivre.
On s'est régalé sur les routes de la région. C'est bien entendu grâce au comité local d'organisation. Jean-Claude Salomon, vous en êtes le responsable sécurité. Rassurez-nous, de votre côté aussi, tout s'est bien passé. On peut déjà tirer un bilan positif de cette arrivée à Delémont.
Alors pour moi, oui, on peut tirer vraiment déjà un bilan très positif parce que dès le moment où la voiture balai passe et qu'il n'y a eu aucun pépin, pour moi, c'est déjà exceptionnel. Et donc, tout s'est vraiment très, très bien déroulé depuis hier soir avec l'arrivée des premiers véhicules pour la mise en place de toute la ligne d'arrivée. Et ce matin, avec l'engagement de l'ensemble du personnel que nous avions et particulièrement avec la protection civile qui a fait un excellent travail, on a véritablement pu tout préparer et à leur hache, eh bien, nous étions prêts à accueillir le tour et tout s'est vraiment très, très bien déroulé.
On a vu beaucoup de monde, notamment dans la vieille ville de Delémont. On va y venir tout de suite avec Jérémy Pignard. Comment est-ce qu'on fait pour canaliser cette foule? Parce qu'il y a le public, il y a les coureurs, il y a la tentation de les approcher le plus près possible.
Alors écoutez, ce que nous recherchons tout de suite, c'est déjà de réserver des endroits pour les spectateurs, de réserver des places de parc pour permettre à ces spectateurs d'arriver, de réserver des places de parc pour la direction du tour, les services de presse et autres. Et puis ensuite, c'est de canceller les gens sur la zone d'arrivée, ce qui a pu être fait sans trop de problèmes, puisque nous avions barriéré la totalité de la zone d'arrivée.
On l'a dit, belle ambiance en vieille ville de Delémont. Beaucoup de monde dans les rues de la capitale jurassienne, tout au long du parcours aussi sur les routes du Jura bernois, sur les routes jurassiennes. Jérémy Pignard, on a senti vraiment une belle émotion tout au long de l'après-midi.
Oui, clairement, je crois que la fête est réussie aussi de ce point de vue-là, du point de vue du public. Il y a eu énormément de monde en vieille ville. C'est difficile à estimer, mais plusieurs milliers, en tout cas plus de 2000 spectateurs curieux ici dans l'aire d'arrivée. Ça, c'est une certitude. On a vu énormément de familles, beaucoup d'enfants parce qu'il faisait beau. C'est mercredi. Il n'y a pas d'école, les ministres, les parlementaires qui étaient là aussi, qui ont profité de l'annulation de la séance du Parlement pour venir assister à ce tour de Romandie. Et puis on a eu surtout un public unanime dire vraiment que voir passer les coureurs trois fois dans cette aire d'arrivée, c'était une réussite, c'était une belle prouesse de l'organisation, ça augmente le spectacle. Les coureurs passent très vite, donc tout le monde était content de les voir plusieurs fois parce que ça permet vraiment d'en profiter. On a vu un public venu de partout, du Jura évidemment, mais aussi de Suisse alémanique, beaucoup de public venu de France voisine, de Morteau, de Haute-Saône, qui supportaient évidemment les coureurs français aussi. Quelques passionnés qui sont venus en vélo et puis des rencontres sympas dans la cour du château entre deux passages des coureurs devant l'écran géant. On a surpris deux bonnes sœurs qui étaient en train d'assister à l'étape, de voir la course. Et donc c'était des moments vraiment sympas, vraiment frais. Une très belle ambiance à l'arrivée avec beaucoup d'encouragement. Le seul petit regret peut-être, surtout du côté des enfants, c'est cette caravane du tour que certains ont trouvé pas assez étoffée, pas assez de cadeaux qui ont été lancés. Peut-être ça pourra s'arranger par la suite, mais très honnêtement, tout le monde a dit qu'ils ont passé une bonne journée et c'est pas terminé parce que demain, Delémont sera encore village départ.
Voilà, que des échos positifs, effectivement, Jean-Claude Salomon, quand on attend ça, forcément, quand on est dans le comité d'organisation, on a le sourire, ça peut pas être différent.
Alors écoutez, on a le sourire, oui, on a le sourire quand tout fonctionne. Aujourd'hui, on avait le temps avec nous. Ça, c'est déjà, je dirais, le 50% de l'opération. Et on a vraiment pu tout faire dans des très, très bonnes conditions. Donc, je remercie véritablement toutes les personnes qui nous ont donné un coup de main. Je remercie aussi les spectateurs qui ont été très dociles parce qu'ils ont dû rester d'un côté de la ville pendant un très bon moment. Certains auraient voulu traverser plus.
Mathieu Schaffner, merci pour cette page spéciale. Oui, Mathieu, vous êtes là encore ?
Oui, on allait juste vous dire, Nancy, qu'effectivement, il y avait encore le départ de la deuxième étape demain depuis la vieille ville de Delémont. Une deuxième étape qui mènera donc le peloton de la capitale jurassienne à Yverdon-les-Bains.
Et retrouvez donc dans la soirée une galerie photo et aussi une vidéo de cette journée que vous avez peut-être manquée. Demain, nous serons à nouveau en direct dès 13h pour vous faire vivre la deuxième étape qui se déroulera donc entre Delémont et Yverdon-les-Bains. En football, Brel Embolo est à nouveau sur la touche à moins de 2 mois de la Coupe du Monde en Russie. Le footballeur suisse de Schalke 04 est blessé à une cuisse et ne jouera pas ce week-end contre Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Selon le magazine Kicker, il n'est pas certain que l'attaquant soit de retour avec son club d'ici la fin de la saison. Le FC Sochaux-Montbéliard passe sous pavillon basque. La gestion du club va être confiée au Deportivo Alavés dans le cadre d'une alliance entre les deux entités. Le FCSM était jusqu'à présent en main chinoise durant 3 saisons. Le groupe espagnol Baskonia Alavés sera responsable de la gestion globale du club de foot français. Le FC Sochaux est actuellement 10e de Ligue 2. Le CIP dans le rouge, le Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan, a présenté ce matin son bilan de l'année dernière et elle a été difficile. L'institution enregistre un déficit de 205 000 francs alors qu'elle prévoyait un léger bénéfice. Une perte causée principalement par 2 facteurs, les explications du directeur du CIP, Daniel Juira.
Elle est liée à deux raisons principales. D'une part, parce que certains cours n'ont pas pu démarrer faute de candidats. Étonnamment, des cours qui étaient liés à l'intégration, donc cours qui n'ont pas pu démarrer parce que des personnes du public cible très spécifique, à savoir des personnes avec un permis F de moins de 7 ans ou des réfugiés reconnus, n'étaient pas suffisants en nombre pour faire démarrer le cours, à savoir qu'il y a des problèmes linguistiques, donc pas assez connaissances de français, ou alors simplement des autres intérêts, à savoir de peut-être travailler rapidement et à court terme dans des métiers non qualifiés. Et d'autre part, le secteur hôtel, restaurant, séminaire n'a pas atteint les objectifs qui étaient peut-être un peu trop ambitieux qu'on avait déclarés pour l'année passée, notamment lié à un chiffre d'affaires beaucoup plus important prévu pour un nouveau restaurant qui est ouvert toute la semaine maintenant.
Et pour l'année 2018, la direction du CIP prévoit une nouvelle perte moins importante. Elle estime pouvoir atteindre l'équilibre d'ici 2019. Pierre Corfou quitte le conseil municipal de Moutier au 30 avril. L'exécutif prévoitois indique dans un communiqué publié cet après-midi qu'il a pris acte de sa démission pour des raisons de santé. Pierre Corfou siégeait depuis plus de 23 ans au sein du conseil municipal. Il cédera sa place à Karim Bortoloussi, actuellement conseiller de ville. Corinne Schwab, première, vient ensuite sur la liste du Parti Socialiste Autonome, a renoncé à reprendre la fonction. Les rênes du RORAC changent de main. Le parti prévotois réunit la presse ce matin à Moutier pour présenter sa nouvelle organisation. Julien Berthold, à la tête du parti depuis sa reconstitution il y a 8 ans, a annoncé qu'il se devait de passer le témoin. Atteint par la limite d'âge fixée à 30 ans, il cède sa place à Alain Picré, membre du comité du mouvement jeunesse depuis sa refondation. En tant que nouveau président, il a à cœur de faire du RORAC le porte-parole de tous les jeunes prévotois, peu importe ce qu'ils ont glissé dans les urnes le 18 juin dernier. Comment y arriver? La réponse d'Alain Picré.
Faire des événements festifs, des événements où on va mettre les symboles politiques de côté pour vraiment que tout le monde se sente bien et puis on ne fait jamais mieux la paix qu'autour d'un verre. Donc c'est là-dessus que nous on souhaite rassembler tous les jeunes de tout bord de Moutier, c'est par des événements festifs et faire des événements rassembleurs.
Est-ce qu'on peut déjà faire la paix alors que les recours sont encore pendants et que les deux fronts sont quand même encore en train de se battre, certains pour faire annuler ce scrutin, d'autres pour prouver sa validité?
Alors c'est clair que tant que les recours sont pendants, ça va être compliqué d'avancer et puis de réunir toute la population. Mais pour moi, les plus grands clivages, ils se trouvent au niveau politique, mais au sein de la population, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à l'avant 18 juin. Et moi, j'ai aucun souci qu'une fois que les recours seront traités et le vote validé, on pourra facilement aller de l'avant. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'on garde la ville coupée en deux. Tout le monde va certainement tirer à la même corde pour aller de l'avant, pour avoir le meilleur pour Moutier.
Des propos recueillis par Natacha Mengoli. Un livre indispensable pour comprendre comment l'ancien évêché de Bâle est devenu suisse. Les éditions Alphil et la Fondation des archives de l'ancien évêché de Bâle publient un ouvrage intitulé « De la crosse à la croix ». L'ouvrage relate la période entre 1814 et 1815 et le passage de la région de la France à la Suisse par son rattachement au canton de Berne et à celui de Bâle pour la petite région du Birsec. Le livre découle des actes d'un colloque qui s'est tenu en 2015 à Porrentruy. Il réunit les contributions de 9 historiens et comble une lacune dans l'étude de cette période importante, le conservateur des archives de l'ancien évêché de Bâle, Jean-Claude Rebeté.
Cette période de 14-15 est absolument essentielle pour l'histoire de la Suisse, parce que c'est là que le territoire de la Suisse définitive est formé, et pour l'histoire de l'ancien évêché aussi, puisque c'est le moment où il va devenir suisse. Et en fait, aussi bien sur le plan suisse que sur le plan de l'histoire régionale, on n'a pas vraiment de publications récentes importantes. Donc notre ouvrage comble ici un vide. Cette période est d'autant plus importante pour la région qu'elle va marquer vraiment un basculement. L'ancien évêché, qui était une principauté d'ancien régime du Saint-Empire, a disparu, occupé par les Français, devenu un département, puis après une partie du département du Haut-Rhin, puis enfin, à ce moment-là, une région administrée par un gouverneur provisoire nommé par les Alliés. Et ça n'est qu'au congrès de Vienne que son adhésion définitive à la Suisse va être tranchée par les Alliés. C'est vraiment un moment de bouleversement total, de refondation littéralement sur des bases complètement neuves.
Le livre « De la crosse à la croix » est disponible aux éditions Alphil. Le Conseil fédéral prône des peines plus sévères contre les violeurs et les personnes reconnues coupables d'agressions sexuelles. Le minimum pour un viol passe de 1 à 2 ans. La justice devra donc s'adapter, même si elle conserve une marge d'appréciation. Il n'empêche, elle devra tenir compte du nouveau cadre et de son esprit. La ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga.
Le changement que le Conseil fédéral propose, il est important, surtout pour dire que, par exemple, avec des activités sexuelles, avec un enfant au-dessous de 12 ans, c'est plus possible d'avoir une peine pécuniaire. Avec ça, on montre que quelqu'un qui fait ça, il doit aller à la prison. Les peines, c'est important, mais c'est aussi important de tout faire pour qu'il n'y ait pas ces délits. J'ai proposé au Parlement dernièrement plusieurs mesures pour mieux protéger les enfants, pour mieux protéger les femmes qui subissent de la violence domestique.
Le président allemand reçu avec les honneurs militaires en Suisse, Frank-Walter Steinmeier, a été accueilli par le président de la Confédération Alain Berset cet après-midi à Zurich. Cette visite d'État se prolongera jusqu'à demain. WhatsApp interdit aux moins de 16 ans. L'application de messagerie a relevé l'âge minimum d'utilisation et ce en prévision du nouveau règlement européen sur la protection des données. Il fallait jusqu'alors avoir au moins 13 ans pour utiliser WhatsApp.
Merci Nancy Chapuis. L'actualité en tout temps sur rfj.ch.
La météo avec 360 Contessa. La météo planifie votre journée. Nous planifions vos projets de construction et rénovation.
Un temps sec pour ce soir et pour cette nuit. Un front très atténué donnant surtout des passages nuageux, mais peu de pluie. Jeudi, un ciel nuageux pour le début de la journée, puis des éclaircies et passages à un temps ensoleillé durant la matinée et dans l'après-midi du soleil avec quelques voiles d'altitude et des cumulus plus étendus sur le Jura. Les températures vont être en nette baisse, 14 à 15 degrés en plaine, 10 à 1000 mètres d'altitude. Vendredi, du soleil encore et une remontée des températures et puis des averses sont annoncées en fin de journée de vendredi selon Météo News, et samedi, un ciel changeant.
La météo.